Et là, on est devant l'écluse 1, qui est l'entrée aval du canal de la Chine, juste devant le silo à grains numéro 5. Le canal de la Chine a été ouvert en 1825 pour contourner les rapides de la Chine, qui ne sont pas à la Chine du tout, qui sont à la salle près de Verdun, sur le Saint-Laurent. La salle a déjà fait partie de la Chine à une autre époque. Il y a une dénivellation de 14 mètres entre la Chine et Montréal, et c'est ça que le canal sert à contourner. Il y a 5 écluses dans le canal, et le canal est aussi reconnu comme un lieu historique parce que c'est l'endroit qui commémore l'histoire industrielle du Canada, parce que c'est ici qu'il y a eu la première grande concentration d'industrie à partir des années 1850, la plus importante jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que c'est un important lieu de patrimoine industriel. Dans les choses qui ont amené au déclin du canal, il y a eu sa fermeture. Là. Oui, il y a eu des usines qui sont parties carrément dans d'autres pays. Mais vu que ça a été le premier parc industriel du pays, ça a été le premier où les usines ont été vétustes. Puis ça avait été construit à l'époque en banlieue, puis là, c'était rendu en pleine ville. Les terrains coûtaient cher. Donc, ça coûtait moins cher d'aller à Ville-Saint-Laurent construire une usine neuve ou un entrepôt neuf que d'en rénover un le long du canal de la Chine.
Toi, tu tripes sur le canal.
Oui, j'ai travaillé pour Parc Canada, au canal de la Chine. Puis ça fait une couple d'années que je ne suis plus au canal, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler. J'ai la piqûre. On a sorti la fille du canal, mais j'arrive pas à sortir le canal de la fille.
Et c'est pour ça que cette semaine, à Dans le champ lexical, l'émission qui tourne autour du mot. On tourne autour du mot quoi, Christiane?
Autour du mot canal.
On va pas juste tourner autour du mot canal, on va faire le tour du canal de la Chine. Puis c'est Christiane Laguinde. Fait que tiens, Christiane, tiens, Nico.
Si. Bien là, on va marcher vers le pont 1000 et ensuite, on va s'en aller vers le bassin Peel.
Donc, vers l'ouest.
Non. Est-ce que vous savez comment ça marche, une écluse? Bien, le principe général, premièrement, c'est le principe des vases communicants. Je vais donner mon exemple de groupe scolaire. Si vous avez deux piscines en arrière de votre terrain et qu'elles sont reliées par un petit boyau, vous ne réussirez jamais à remplir une piscine plus que l'autre. À chaque fois que vous allez rentrer de l'eau dans une, il va s'en communiquer dans l'autre. C'est la gravité qui fait ça. L'écluse, c'est le même principe, sauf que l'écluse est une petite piscine, puis le bief entre deux écluses est une pas mal plus grosse piscine. Donc, il y a juste ici, entre les écluses 1 et 2, qu'on peut voir la différence sur le mur, là, quand ça descend. Mais les autres, il y a plusieurs kilomètres entre chaque écluse. La dénivellation totale entre la Chine et Montréal, elle est de 14 mètres. Cette dénivellation-là est divisée entre chaque écluse. Le canal devient une sorte de grand escalier pour les bateaux. Sinon, ce serait une chute. Mais dans la voie maritime du Saint-Laurent, c'est deux grandes écluses à Saint-Lambert et à Saint-Constant qui permettent de franchir la même dénivellation. C'est parce que avec la technologie qui augmente, ils arrivent à faire des plus grosses écluses pour la même dénivellation. Il y a une place en Écosse où ils ont remplacé un escalier d'écluse, je ne me souviens plus comment il y avait de marche, par une grande roue. Il y a des bacs avec de l'eau, les bateaux entrent dedans, c'est la Falkirk Wheel. Puis ça tourne, puis là, en haut, ils continuent leur chemin. D'écrire la Falkirk Wheel de manière radiophonique, c'est pas évident, mais... Ouais, il faut faire attention au vélo ici. Il n'y a pas une attaque à la mitraillette présentement. Il y a une porte d'écluse qui travaille fort.
Ça combien d'âge, ça, en passant?
Les portes?
Ouais.
Les portes, c'est... celles-là, ouais, elles sont plus vieilles, 92.
1892?
1992. Les écluses 3, 4, 5 ont été faites entre 97 et 2002. Je ne le sais pas pour celle du Vieux-Port, mais je sais que pour les autres, il a fallu aller chercher du bois en Colombie-Britannique pour avoir du bois de la bonne taille pour faire des portes d'écluse. Oui, Five Roses, qui a été la deuxième minoterie de la famille Ogilvy le long du canal de la Chine. La première, on en voit seulement les vestiges archéologiques maintenant près de l'écluse 3, près de la rue des Seigneurs. Là, donc, c'était des gens d'origine écossaise qui sont vraiment devenus les magnats de la farine au Canada. L'affiche, elle est d'abord apparue dans les années 40 et elle disait « Farine Ogilvy Flour ». Ensuite, dans les années 50, ils ont acheté la marque de commerce Farine Five Roses. Alors, ça disait Farine Five Roses Flour. Puis, dans les années 70, suite à la loi 101, le mot flour est disparu. En 2006, elle a failli disparaître parce que la marque de commerce a été achetée par une autre compagnie que celle qui fait la farine ici. Alors, la compagnie ne voyait plus l'intérêt d'avoir l'affiche sur le toit, mais suite aux pressions des milieux de conservation du patrimoine, Héritage Montréal, tout ce monde-là. Les gens ont accepté qu'en fait, c'était un emblème à Montréal, pas juste une marque de commerce, là, pas juste une publicité. Dans les années 60, ici, le canal a été complètement remblayé, avec la terre du métro, entre autres, mais il n'a jamais été re-excavé à sa largeur d'origine, ce qui fait qu'il y a un mur de béton là, avec des bollards, des bits d'amarrage. Mais ça, c'est jusque-là que le canal allait. À ce moment-là. Ce qui a amené l'industrialisation, c'est l'utilisation de l'énergie hydraulique, la force de l'eau utilisée pour faire tourner des turbines dont la force se transmettait aux machines de manière mécanique, là, par des engrenages. Et ici, ça a été fait assez simplement. L'eau entrait par le canal, par des pertuis comme ça, des entrées qui faisaient entrer l'eau dans le sous-sol de l'usine. Ça tombait. Et ça retombait derrière l'usine dans le fleuve, qui était beaucoup plus proche à l'époque, parce qu'il n'y avait pas la cité du Havre, la jetée Baker Dyke, toutes ces choses-là. Mais en fait, ici, la rue de l'autre côté s'appelle la rue Mill, donc moulin. Des moulins à farine, il y en a eu beaucoup. Il y a les silos à grains. On approche des anciens bassins à farine, où il y avait un entrepôt spécialisé dans la manutention du blé et de la farine. C'est comme une minoterie ici, elle a une plus grande valeur patrimoniale qu'une minoterie toute seule, disons comme Robin Hood plus loin, en tout cas à mes yeux, parce qu'elle fait partie d'un ce qu'on appelle en patrimoine un paysage significatif. C'est vu que ça fait partie d'un ensemble, ça augmente la valeur. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le déversoir numéro 2 qui amène un surplus d'eau du canal vers le fleuve Saint-Laurent, mais qui nous donne quand même une idée du potentiel hydraulique pour l'énergie pour les usines.
Là, ça, ce bassin-là, ça a un nom, ça?
En fait, aujourd'hui, on dit le bassin Pion.
Okay. Le bassin Pion.
Ça, c'est venu, c'est un nom contemporain qui est venu dans le projet de réouverture. La ville a prolongé la rue Peel jusqu'au canal, bon, tout ça. Traditionnellement, c'est considéré comme trois bassins différents. Au centre, un bassin de retournement pour les bateaux. Puis là-bas, où est-ce qu'on voit les quais, deux bassins qu'on appelait les bassins à farine, parce que c'est la principale marchandise qui était transbordée à cet endroit-là. Et en fait, quand on va passer sur le petit pont là-bas, tantôt, on va passer aussi dans l'entrée de l'ancien bassin Wellington, qui se rendait jusqu'aux ateliers du Grand Tronc. Donc, c'est tout cet ensemble-là qu'on appelle aujourd'hui le bassin Peel.
Je sais que c'est toi la guide, mais il me semble qu'on serait dû pour péter notre coche sur ce qui est en train de se faire devant nous. Parce que quand on me demande, c'est où la plus belle place à Montréal, Mathieu? On me demande tout le temps ça. Je leur réponds, tu prends la piste cyclable en sortant du Vieux-Port, là, tu tournes les coins. Et là, tu arrives devant un bassin, tu vas voir, tu peux pas le manquer, ça va faire juste wow. Si on est cité le soir, tu vas voir la ville illuminée qui se reflète dans le bassin en bas. Si t'es jour, tu vas faire wow, ma ville est tellement belle. Mais là, présentement, ce qu'on voit, c'est deux bâtisses en train de se faire construire qui nous cachent complètement la partie intéressante du centre-ville. Ce qui veut dire que ce bassin-là, au lieu d'appartenir à tout le monde qui passait ici, par hasard ou volontairement, il va se trouver à appartenir à quoi? 200 personnes qui vont rester dans des condos absolument hors de prix, qui vont pouvoir regarder un petit bassin qui remplit quoi? 4 mois par année? Au lieu du contraire, où est-ce que tu pouvais voir tout le temps la ville? Je suis hors de moi. Hors de moi.
Oui, voilà, le bassin a été remis en eau en 2002, puis c'est devenu tout un paysage emblématique. Il y avait la Madame la Météo Radio-Canada avec ce paysage-là en arrière d'elle. C'est sur les guides touristiques partout. Et il va avoir duré 10 ans. Maximum. Puis le développement à Griffintown a fait l'objet de consultations, tout ça. On se demandait si quelqu'un qui s'y connaît un peu trouvait que la planification avait été suffisante. Alors, dans cette optique-là, j'ai fait une entrevue avec Marc-André Carignan qui va nous dire ce qu'il pense du développement au canal de la Chine.
J'espère qu'il est fâché, lui aussi.
Ces temps-ci, quand on se promène dans les environs du canal, on voit beaucoup de chantiers. C'est très, très actif. Mais est-ce que dans tous ces chantiers-là, dans tout ce développement, il y a suffisamment de planification compte tenu du potentiel du canal et aussi de son importance sur le plan du patrimoine?
Suffisamment de planification? Je dirais non, à vif comme ça. Évidemment, quand on regarde, en fait, tout le long du canal se développe actuellement, ou le long des autoroutes, je pense entre autres à Griffintown aussi, que j'inclus un peu dans la redéfinition du sud-ouest de Montréal. Non, malheureusement, il n'y a pas suffisamment de planification, ou celle qu'on a prévue arrive un peu tard. Et encore là, je reprends l'exemple de Griffintown. Oui, on a un PPU, donc un plan particulier d'urbanisme, mais malheureusement, on arrive à un point où les promoteurs ont déjà acquis des terrains, on est déjà en construction, et là, on lit des phrases vides, comme par exemple, on va solliciter la commission scolaire de Montréal pour ajouter une école. Mais ça, il aurait fallu le faire bien avant, construire le quartier en synergie, non pas à la pièce une fois que tout est déjà enclenché. Même chose un peu pour le bassin Peel. Il y a de très beaux projets qui coûtent aussi à très cher parce que la réappropriation des berges, de l'eau, on le fait à Montréal, mais on le fait un peu partout dans le monde parce qu'il y a à peine quelques décennies, dans les grandes villes nord-américaines, avoir accès à l'eau, c'était pas nécessairement quelque chose qui avait une grande valeur. Mais aujourd'hui, au contraire, là, tout le monde veut avoir l'accès à l'eau. On veut redonner l'accès à l'eau aux citoyens, mais on privatise beaucoup aussi actuellement. Et en privatisant, c'est ça engendre des projets qui sont assez dispendieux. Donc, on perd un peu de mixité sociale, entre autres dans le coin du bassin Peel. Bonjour, mon nom est Marc-André Carignan. Je suis l'animateur des Oranges pressées à CIBL et aussi chroniqueur au journal Métro en design urbain et en architecture.
Est-ce que ça manque de place publique pour donner accès à l'eau aux gens?
Oui, définitivement. On prend l'exemple, votre émission aujourd'hui, c'est sur le canal. Alors, l'exemple du canal parle de lui-même, c'est-à-dire que on a un joyau pour Montréal ici. On a la chance d'avoir ça, le canal de la Chine. Et malheureusement, actuellement, c'est géré par le fédéral et le canal en tant que tel. Et malheureusement, on voit que c'est complètement laissé à lui-même. On va se promener le long, là. On réalise que les murs sont érodés, que un des seuls petits ponts qui traverse Pétonnier ou pour les cyclistes à côté du marché Atwater est rouillé complètement. Il y a des graffitis en dessous. Il y a une programmation, oui, mais quelques kayaks ici et là. Alors que si je compare avec des exemples comme à Ottawa, par exemple, un exemple près de chez nous, on a un design urbain qui est de qualité autour. Ça attire vraiment les touristes. Il y a une belle programmation à l'année. En Corée du Sud aussi, il y a un exemple il y a un canal qui est super bien. En fait, c'est toujours plein de gens, plein de citoyens. Il y a une programmation annuelle avec des festivals de l'entreprise antenne sur l'eau. Les gens peuvent d'ailleurs toucher aussi à l'eau en tout temps. On peut juste descendre quelques marches, on touche à l'eau. Ça devient vraiment un attrait touristique et un attrait pour les locaux. Les gens vont luncher sur le bord de l'eau. À Montréal, il y en a peut-être un peu, mais on est loin d'avoir maximisé ce potentiel-là. Et ça ne fait pas nécessairement de très belles cartes postales pour l'instant, entre guillemets. Mais je parle, ça semble esthétique, un peu ce que je dis, un peu superficiel, une carte postale, mais c'est un moteur économique. On pourrait vraiment le maximiser davantage, ce joyau-là qui est laissé à lui-même en ce moment.
En parlant de carte postale, dès que le bassin Peel avait été remis en eau en 2002, le paysage avec la vue sur les gratte-ciels était devenu une image emblématique de Montréal. On est en train de le gâcher, tu penses, avec le développement autour du bassin?
Gâché. C'est certain qu'on a, si on prend un peu de recul du centre-ville, oui, on a une très belle vue. C'est sûr que la ville évolue. Puis à un moment donné aussi, en redéveloppant certains terrains, on critique souvent Montréal en disant qu'il manque de densité pour faire vivre les commerces de proximité, ces choses-là. C'est ce qu'on tente de faire avec la réappropriation du Sud-Ouest. Oui, c'est sûr qu'il y a des tours qui se construisent, qui coupent peut-être un peu la vue. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre des modèles un peu plus denses, mais de 8-9 étages qui auraient empêché de cacher au loin la vue du Mont-Royal, de certains bâtiments clés de Montréal? Peut-être, mais en même temps, il y a tellement un dilemme économique actuellement. On veut densifier, les terrains coûtent très cher à Montréal. Donc, pour rentabiliser un terrain pour un promoteur privé, faut mettre le plus d'unités possible là-dessus. Alors, c'est pour ça qu'on construit en hauteur. On aurait peut-être pu le faire un petit peu plus à l'horizontale, la densification. Ça, c'est certain, mais d'après moi, c'est surtout un choix économique. On peut rentrer beaucoup plus d'unités peut-être en hauteur, une à côté de l'autre, qu'à l'horizontale. Donc, il y a une question de taxes foncières pour la ville. On regarde vraiment, si on lit entre les lignes, là, je pense qu'il y a un choix économique qui a été fait plutôt qu'un choix de design urbain dans tout ça. Là.
Et si Marc-André Carignan avait son mot à dire sur, on te dit, on te donne la plume ou la baguette magique peut-être même, ce serait quoi la vision que tu aurais pour le Canada de la Chine?
Bien, comme je le disais, je pense qu'il y a tu sais, c'est drôle parce que j'avais écrit un article dans la presse il n'y a pas si longtemps sur le blog de François Cardinal et je parlais justement de ces sites inexploités à Montréal. Le quartier chinois est un autre exemple, des sites qui sont laissés à l'abandon. Et dans le cas du canal de la Chine, oui, il y a une piste cyclable à côté, mais c'est une piste cyclable qui fait pitié à comparer de ce qu'on pourrait faire. On pourrait créer, on pourrait mettre en valeur. On a le titre depuis 2006 de ville UNESCO de design. Et on sent pas ça en se promenant à Montréal un peu partout. C'est pas Chicago, c'est pas les pays scandinaves, tout ça. Et on pourrait tellement rentabiliser davantage, ne serait-ce qu'avec une programmation aussi de, comme je le disais, par exemple, l'exemple de la Corée du Sud, avec un festival des lanternes à l'année. Les gens habitent le canal. Moi, quand je vais souvent l'été, je vous dirais pas qu'il y a foule nécessairement autour du canal. Il y a foule au marché Atwater, il y a foule à côté avec la crème glacée, il y a foule, oui, il y a quelques kayaks sur l'eau, mais c'est loin d'être habité comme milieu. Et j'ai l'impression parfois que ça devient plus touristique aussi que nécessairement les locaux qui se disent « Hey, je vais aller faire un tour aujourd'hui au canal de la Chine parce que j'aime ça être là, parce que... » oui, il y en a, mais je pense pas qu'on le maximise à ce niveau-là. Donc, une programmation, un design urbain qui a de l'allure, le pont piétonnier, est-ce qu'on pourrait pas faire un beau pont piétonnier, un pont qui serait digne de la créativité montréalaise, qui serait pas nécessairement un pont signature. J'aime pas ça dire ça, je fais attention parce qu'on quand on parle d'esthétisme et tout ça, les gens disent « Moi, mais c'est tellement superficiel. » Mais il y aurait moyen de faire un beau pont qui deviendrait un moteur économique qui attirerait des gens. Donc, ça deviendrait finalement un attrait plutôt qu'un simple pont qui fait sa job de passer du point A au point B, là. En fait, Montréal, l'importance d'avoir accès à l'eau pour les citoyens, c'est quelque chose qui y a vraiment une grande réappropriation, non seulement ici à Montréal, mais aussi ces dernières années, un peu partout en Amérique du Nord. Parce que lorsqu'il y avait eu le grand boom de l'automobile, puis qu'on s'est mis à construire des routes un peu partout, en Amérique du Nord, les villes sont surtout basées à partir de la voiture. Là, les développements modernes, c'était surtout ça, du béton, puis des autoroutes et tout ça. Et à un moment donné, on s'est mis vraiment à construire des autoroutes un peu partout, souvent en bordure de l'eau, parce qu'il n'y avait pas nécessairement une grande valeur associée au développement des berges. Donc, au lieu d'avoir des autoroutes qui venaient séparer des quartiers en ville, on les mettait, par exemple, sur le bord de l'eau et on gardait le centre de l'île ou de la ville pour les bâtiments, pour les citoyens. Et finalement, avec le temps, depuis quelques années, au contraire, avoir accès à l'eau, d'avoir un logement à côté de l'eau, ça a une très, très grande valeur. Donc, il y a une transition comme ça de la société. Les valeurs changent et là, le fait de se réapproprier les berges, ça devient extrêmement extrêmement important. À Montréal, Montréal ne fait pas exception là-dedans. Alors, c'est pour ça qu'on voit tous les quartiers se redévelopper en bordure de l'eau, dans le sud-ouest, entre autres. Et il y a une grande question aussi avec le technoparc. Qu'est-ce qu'on fait avec le technoparc? Et c'est drôle parce que quand j'étais à l'université, on avait fait un projet avec l'Université de Montréal sur, bon, évidemment, il y a toute la question de la contamination des sols parce que c'est un ancien dépotoir. Mais cette autoroute-là, qui c'est un grand terrain qui est inexploité. Il y a l'autoroute qui vient complètement couper l'accès à l'eau. Et on s'était posé la question à l'université, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on avait mis plein d'idées sur la table pour cacher l'autoroute, la rendre souterraine, donner un belvédère aux gens. Alors, d'ici quelques années, d'après moi, on va réussir à redévelopper, entre autres, le technoparc.
Cette semaine, à Dans le champ lexical, on fait une visite guidée du canal de la Chine.
Oui, là, on arrive à la rue Wellington. Où est-ce que la rue Wellington traverse le canal? Il y a une concentration de trois ponts ici. Le premier qu'on voit, c'est le pont ferroviaire sur lequel on passe quand on arrive en train à Montréal, à la gare Bonaventure. Il a été construit dans les années 40 et à l'époque, il y avait quatre immenses tours qui permettaient de le soulever 90 pieds dans les airs quand les bateaux passaient.
On l'ouvrait pas, on soulevait
le... On ne l'ouvrait pas, celui-là. Il soulevait dans les... Le tablier était soulevé 90 pieds dans les airs. Les enfants de Griffintown grimpaient dessus en cachette. C'était comme une espèce de concours de courage, lequel allait oser sauter le dernier. Le monsieur qui me l'a raconté, il dit qu'il s'était fait deux œils au beurre noir en frappant l'eau. Il m'a aussi raconté avoir déjà rencontré le fantôme de Mary Gallagher. Je ne sais pas si les deux événements sont reliés. On est toujours dans le secteur de la rue Wellington. On est devant un autre pont ferroviaire, celui-là qui ne sert plus. Je ne sais plus exactement depuis quelle année, mais je sais qu'il a été construit en 1912. C'est un ancien pont tournant. Et quand la navigation est revenue dans le canal de la Chine, celui-ci était trop bas pour le tirant d'air, ce qui dépasse de l'eau, qu'on voulait accorder au bateau. Et comme il ne servait plus, la solution la plus simple, c'était tout simplement de le tourner sur son îlot central. Oui, là, il est parallèle au canal, perpendiculaire à la traque. Voilà. C'est exactement ça. C'est le seul ancien pont au canal de la Chine qui est encore en haut, la cabine où se rendait le pontier pour le faire tourner, pour actionner le mécanisme. Et il a été déplacé avec le temps. Il a déjà été plus à l'est. Il a été déplacé quand l'autre, qui sert encore aujourd'hui à se rendre à la gare Bonaventure, a été construit.
Puis, pourquoi est-ce qu'ils l'ont gardé là?
Pour des raisons patrimoniales, oui. Le canal étant administré par Parc Canada, c'est pas des gros jeteux d'affaires. contrairement à d'autres administrations qu'il y a déjà eu, bon, si c'était seul, il y a eu un grand maire dans l'histoire de Montréal, c'était juste de lui, il y aurait peut-être eu une autoroute ici, puis il y aurait des bureaux dans le marché Atwater, puis il était de l'école Tabula Rasa. Mais malheureusement, c'était pas le cas de tout le monde. En ce moment, on se trouve à être sous le pont routier Wellington, qui a été inauguré en 1995. Avant ça, depuis les années 30, les gens ici passaient dans un tunnel, le tunnel Wellington, qui avait été construit dans le cadre de travaux publics pour faire travailler les chômeurs pendant la crise. Et encore, bien là, on est en dessous du pont, mais encore de chaque côté, on peut voir les anciens édicules de ventilation du tunnel Wellington, qui sont de style art déco, là, tout à fait conforme avec l'époque. Et le tunnel, depuis qu'il ne sert plus à la circulation automobile, sert à des tournages cinématographiques, une base assez régulière. Il y a entre autres Angelina Jolie qui a passé plein de temps dans notre beau tunnel pour le tournage du film Bone Collector.
C'est pas un navet.
Là, on arrive direct dans les décors, des pieds dans la mer. J'étais tout le temps ici. Ça, puis la revanche des nerds.
Assis sur le bord du canal, je compte les poils sur mes bras. Comme un abruti, je grimace dans l'eau dégueulasse qui ne me répond pas. Je joue de la flûte dans des joncs pourris qui ont le même son que le son de ma vie. Je m'ennuie. Assis sur le bord du canal, je fais le total de mes doigts. Je me raconte des mensonges, je ronge mes ongles et fais craquer mes doigts. J'entends crisser les feuilles mortes sous les redingotes des amoureux dans le petit bois. Juste dans mon dos, j'ai les yeux qui flottent dans l'eau. Bon Dieu, que les journées sont longues quand on est tout seul. Bon sang, que les soirées sont fraîches quand on est tout seul. Assis sur le bord du canal, je compte les vagues en secret. Et comme un parfait inutile, j'épile une branche et m'en fais un archer. Je mets en bouteille des lettres d'amour qui vont, qui viennent, mais qui restent là toujours. Je m'ennuie. Assis sur le bord du canal, j'attends un signal comme un cri qui me viendrait de l'autre rive et qui dirait arrive. Je m'ennuie aussi. Je rêve que j'irais à la nage, que j'irais à l'abordage sans faire un détour pour un peu d'amour. Je vendrais la doux. J'attends, j'allume mon fanal. Mon Dieu, que les journées sont longues quand on est tout seul. Bon sang, que les soirées sont fraîches quand on est tout seul. Assis sur le bord du canal, je compte les poils sur mes bras.
Bonjour. Je travaille pour une émission de radio. Qu'est-ce qu'on attrape dans le canal?
L'esturgeon, crapa-soleil, doré, archigan.
De l'esturgeon. Ouais, de l'esturgeon, on parle de quelle grandeur à peu près?
Plus gros que c'est pogné, moi, j'ai pogné l'année passée 44 pouces.
Wow! Ça reste là-dedans ici. Là. Ça reste
oh, dans... Oui, c'est le bord. Là.
Et puis, vous pêchez avec quoi? Avec
des verres? Des verres.
Juste donc, on peut venir ici avec un verre, puis un hameçon, puis pitcher ça là-dedans, puis attraper 42 pouces d'esturgeon.
Oui.
L'avez-vous mangé ou vous l'avez rejeté?
44 pouces, lui dit.
44. Puis l'avez-vous rejeté ou l'avez mangé?
Je l'ai mangé.
C'est-tu bon?
Oui, très bon.
Cette semaine, à Dans le champ lexical, on tourne autour du mot « canal ». Et plutôt que de vous offrir des reportages sur les traitements de canal, eh bien, on en profite pour se faire faire une visite guidée du canal de la Chine par une passionnée du canal de la Chine, Christiane Campagna.
Là, on est vis-à-vis la raffinerie de sucre Red Path, mais de l'autre côté du canal, il y a l'entrée d'un autre petit canal qui est en fait plutôt une sortie. Parce que pour l'énergie hydraulique, autour de l'écluse Saint-Gabriel, il y avait tout un système de canaux, des canaux d'amener qui amenaient l'eau aux usines. Elles étaient au niveau amont. Et derrière les usines, il y a un canal qui passait qui s'appelait le canal de fuite qui ramenait cette eau-là au canal principal. La plupart ont été enterrés depuis, il n'y a presque plus de traces, sauf ce petit canal de fuite qui passe derrière les écuries où se passe le roman Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Alors dans le roman, quand elle parle du petit ruisseau derrière l'écurie, elle parle de ce canal de fuite.
Donc Marie-Hélène, dans ton roman Griffintown, c'est l'histoire de Marie qui devient cochère. D'abord, je voudrais que tu t'exprimes un petit peu sur la notion de Griffintown que tu appelles Far West.
OK.
Premièrement, je vais faire une précision parce que souvent mon livre est résumé comme ça, c'est l'histoire de Marie, nanana. Mais le livre s'appelle Griffintown et pour moi, c'est plutôt l'histoire d'un territoire. C'est vraiment, puis le choix du mot, je parle pas d'un quartier, je parle vraiment d'un territoire parce que ça évoque tout de suite l'imaginaire western. Bon, j'ai écrit un western, c'est un genre qui est très codé. Quand on décide de faire ça, parce qu'au début, je flirtais avec le genre western, mais à un moment donné, j'ai décidé de vraiment jouer le jeu. Mais il a fallu que je m'organise pour, tu sais, pour m'approprier ces codes-là, puis pour investir les lieux communs, mais à ma façon, avec mon imaginaire à moi. Il a fallu aussi que je recrée bon, le lyrisme qui est apporté par la trame sonore. T'sais, on peut penser aux trames de Morricone. Ben par l'écriture, il faut passer peut-être plus par un style où, tu sais, il y a Cormac McCarthy qui m'a guidée un peu pour ça. Donc, voilà. Puis j'appelle ça le Far West, FR. O-U-E-S-T et non pas W-E-S-T parce que je pointe la réalité montréalaise. Et puis, ce que je raconte dans le fond, c'est ce quartier, Griffintown, que moi j'ai vu évoluer, que j'ai connu en 2003-2004. Ça, c'est les deux étés où j'ai moi-même été cochère. Et puis, à ce moment-là, je savais pas que ça allait devenir... branché comme ça, Griffintown, c'était un coin glauque. Il y avait un héritage dans le patrimoine irlandais qui avait mal été entretenu, mais il y avait un type de bâtiment qu'on voyait et qu'on voit encore dans ce coin-là, mais qu'on voit pas ailleurs dans la ville. Puis il y avait surtout les écuries des chevaux de calèche. Donc, t'arrives là, puis c'est très surprenant, là. Tu peux voir un cheval blanc qui broute en quelque part, puis t'as les édifices du centre-ville qui est juste à 10 minutes de là, pas très loin. Puis il y a beaucoup de Montréalais qui le savent pas. Puis même moi, au début, je pensais que ça s'appelait Pointe-Saint-Charles. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, mais non, c'est Griffintown. Puis là, Griffintown, ça sonnait tellement comme un nom de village western que j'ai sauté dessus. Mais j'aurais jamais pensé que ça deviendrait une espèce de buzzword comme c'est devenu là aujourd'hui. C'est sûr que le canal est important parce qu'il fait partie de la délimitation du quartier. Au nord, il y a Notre-Dame. À l'est, ça va jusqu'à McGill, je pense. À l'ouest, il me semble que c'était des seigneurs. Puis au sud, c'est le canal Lachine. Moi, quand je m'en allais, j'y allais tout le temps en vélo, puis je longeais le canal, puis tout ça. Puis tu sais, tu quittes Griffintown, tu arrives dans le Vieux-Montréal, c'est super beau, hein? C'est vraiment le fun à longer. Et puis dans le livre, moi, je le présente comme si il y avait un petit embranchement du canal qui devient le ruisseau d'eau noire, mélasseuse et toxique, qui est juste derrière l'écurie. C'est le ruisseau où on noie les chatons. Il y a un paquet d'affaires qui ont été tirés dans ce ruisseau-là. Vers la fin du livre, le ruisseau est vidé de ses eaux. Et puis, on trouve là un squelette de cheval. Et le pire, c'est que dernièrement, quand je suis allée me promener dans Griffintown, j'ai vu que, pour vrai, le ruisseau avait été vidé. Puis, il y avait effectivement des choses que j'avais comme inventées et fabulées, des vêtements, des bouteilles, t'sais, vraiment des espèces d'artefacts, des gens qui ont vécu autour de ce ruisseau-là. Donc, ça fait quand même partie de l'histoire dans Griffintown parce que dans mon roman, c'est là que le cadavre du propriétaire de l'écurie est retrouvé avec une seule botte. Donc, ah non, attends un peu. Au début, il n'y a plus ses bottes. Ouais, c'est ça. Donc, dans le fond, lui, son cadavre a été jeté dans le canal de la Chine, puis il se retrouve dans le ruisseau près de l'écurie. Donc, ça commence comme ça. Le jour se lève sur Griffintown après le temps de survivance, les mois de neige et de dormance. Un soleil précaire pointe à l'est. Sur l'horizon se profile un paysage désolé, traversé de collines de rouille où subsiste, par strates et dans un silence condamné, toute une généalogie d'objets obsolètes. Enjoliveurs dépareillés, chaînes de vélos rompus, plaques de tôles gondolées. Au loin se dresse la montagne royale coiffée d'une croix, insensible aux doléances des arbres, étirant vers elle leurs bras décharnés, comme des indigents dans l'attente de la manne. Derrière l'écurie, le ruisseau a dégelé et ses eaux noires courent vers le canal, vives et furieuses. Il a beaucoup neigé en avril.
Une âme bienveillante a dilué un peu de vodka dans les abreuvoirs pour que les rares chevaux qui restent puissent boire pendant la saison froide. L'oscillation constante entre gel et dégel a sévèrement entaillé les rues, les transformant en véritables pièges à calèche. Il faut avoir connu les jours et les nuits de Griffintown pour entrevoir dans ce décor ingrat la possibilité d'un été fécond. Ceux de la ville ont remplacé les pancartes « Attention, calèche, ralentissez » par des panneaux sur lesquels on peut lire « Bientôt, complexe immobilier haut de gamme. Début des travaux dès l'automne. Merci aux premiers acheteurs. » Ensuite, ils ont entrepris d'étouffer le miasme en commençant par régler le cas du ruisseau. « C'est sans doute ce genre d'eau-là qu'on boit en enfer », se sont-ils dit en pompant tout le liquide. Dans le lit asséché, ceux de la ville ont trouvé une fourche rouillée, un vieux téléviseur, une machine à écrire, des tessons et autres éclats de porcelaine, une roue de calèche, un soulier de femme, plusieurs bouteilles de spiritueux, un crucifix, des fers, des coquilles d'escargots vides, des canettes de boissons gazeuses, des seringues, des préservatifs et, à peine reconnaissable, l'uniforme de fantassin de celui qui avait croisé un Wendigo. Ainsi dégorgé, le ruisseau a aussi restitué le squelette d'un cheval avec, enroulé autour de ses côtes, des centaines de petites couleuvres brunes. Pour moi, l'âme de Griffintown, c'est le bruit des sabots de chevaux de calèche qui tapent l'asphalte. Pour moi, un Griffintown sans ce bruit-là, ça serait un Griffintown qui serait sans âme, parce que les chevaux, on a tendance à l'oublier, mais ils ont vraiment construit la ville, dans le fond, là, avant l'apparition des autos. Puis tout ça, c'était eux. C'était eux qui transportaient aussi la glace, le lait, tout ça. Pour moi, les chevaux, c'est un patrimoine vivant. C'est une idée que j'aime beaucoup. C'est parce qu'il y a le patrimoine irlandais. Tu sais, des fois, on oublie, mais sur le drapeau de Montréal, tu as les quatre symboles des nations fondatrices, des pays qui ont contribué à l'essor de Montréal, donc l'Écosse, l'Irlande, la France et l'Angleterre. Et puis, l'Irlande est là-dedans. Puis, les premiers immigrants se sont installés à Griffintown. Donc, il y a quelque chose de l'histoire de Montréal. Et puis, il faut faire attention parce que les condos sont construits très, très, très rapidement. Puis, il y a quelque chose qui se perd en ce moment et c'est fait de façon très cavalière. Il y a le fameux Horse Palace, qui est la première écurie de Montréal, qui est très vieille, qui date du milieu du 19e. Et puis, le propriétaire, un vieil Irlandais qui est décédé il y a quelques mois, il était rendu à 80 quelques ans. Lui, dans le fond, il voulait la vendre très, très, très cher, puis personne ne pouvait l'acheter. Puis ils ont failli la démolir au complet. Ils en ont préservé une petite partie, mais honnêtement, je suis allée voir, puis moi, je la reconnais juste plus, cette écurie-là. Laura Despatie sait exactement où trouver celui qu'elle cherche à cette heure. Non loin des anciennes écuries de Leo Leonard, dans la cabine du stationnement glauque, là où personne ne va jamais garer sa voiture. Mais il n'y est pas pour le moment, alors elle s'est postée à l'arrière d'un grand conteneur et attend le retour de la mouche. Quelques mètres au-dessus de sa tête, un panneau vante le projet Griffintown 2.0. Tranquillité, élégance, style de vie à deux pas du centre-ville. Ouverture du bureau des ventes en septembre. Sur l'affiche, une brunette de 30 ans rit à gorge déployée devant un plat de langoustes en compagnie d'un homme aux tempes grisonnantes, serein, auréolé de succès et qui semble à l'origine du mot d'esprit qui a fait s'esclaffer sa compagne. Un verre de rosé à la main, il sourit, pensant sans doute aux années heureuses, tranquilles, élégantes qui se profilent à l'horizon. Le fantôme de Mignonne se sentirait à l'étroit dans ce Griffintown-là. Thank you.
du canal de la Chine.
Je veux juste préciser qu'il y a des gants de chess.
Le canal de la Chine est une très bonne place pour voir des gants de chess. Puis en général, quand tu es en train de donner un tour guidé, tu fais pas le poids à côté. Surtout si tu as un voyage de madame retraitée avec toi. Ici, on est devant une ancienne usine où on transformait la soie. C'est une des premières reconversions en loft qu'il y a eu au canal au tout début des années 90. C'était vraiment... les premiers qui ont habité là, c'est les early adopters là, en matière de tendance de loft. Mais s'il y en a de cette époque-là qui sont encore là, ils ont fait une très bonne affaire. Parce que la réouverture du canal a ajouté un petit peu de valeur.
Donc, au coin de rue du canal et rue des Seigneurs.
Oui. Les lofts Corticelli.
Un mur détruit. Une cheminée?
Oui. En fait, ici, il y a une cheminée puis toute seule, puis un mur. On est vis-à-vis la minoterie de farine Robin Hood. Ici, c'est une corderie qui avait donc une usine où on fabriquait de la corde. Un bâtiment très, très long et très bas aussi, parce que c'est tressé de la corde. Ça se fait pas sur plusieurs étages, ça se fait plutôt à l'horizontale. Et c'était complémentaire avec ce qu'il y avait à l'époque. En face, puisqu'on est vis-à-vis les anciennes installations d'Augustin Quentin, qui avait un chantier naval. Augustin Quentin, c'était le seul francophone à avoir une usine le long du canal de la Chine au 19e siècle. Et sa compagnie a porté les noms très français de Montreal Marine Works et Canada Marine Works. Il avait épousé une Écossaise et s'était converti à la religion presbytérienne. Toute chose, bon, je dis pas qu'il est pas romantique, là, peut-être qu'il l'aimait puis qu'il la trouvait belle puis tout, là, mais ça le faisait très, très bien fitter dans le monde industriel de l'époque, composé principalement d'Écossais.
La voie ferrée.
Oui, qui sert encore. Il y a encore des trains qui passent ici puis qui vont jusqu'à la minoterie Robin Hood. Il y en a comme un ou deux par semaine qui passent pas très vite. Mais là, on est dans le parc Rufus Rockhead. Savez-vous, monsieur qui avait étudié en musique, qui est Rufus Rockhead?
Le père de Rufus Wainwright?
Non, pas du tout. Tu sais bien que Rufus Wainwright, c'est le fils des sœurs McGarrigle. Non, Rufus Rockhead, c'est le fondateur du Rockhead's Paradise, une des célèbres boîtes de jazz de Montréal, de la glorieuse époque où ça se passait à Montréal parce qu'il y avait la prohibition aux États-Unis. Et on est maintenant dans la petite Bourgogne, qui est le premier quartier noir à Montréal. Les premiers noirs qui sont arrivés à Montréal arrivaient soit des États-Unis, soit des Antilles. Et le seul emploi qu'ils trouvaient, c'était porteur de bagages pour les compagnies de chemin de fer. Et ici, c'était localisé pas trop loin des gares avec des loyers à prix abordables. Alors, ça en a fait un peu le berceau du jazz. D'ailleurs, Rufus Rockhead était porteur de bagages et on dit que le fait qu'il était porteur de bagages pendant la Prohibition n'est pas étranger au fait qu'il ait amassé les fonds pour partir sa boîte de jazz. Mais c'est aussi le quartier de naissance de Oscar Peterson, Daisy Peterson et Oliver Jones. Daisy a été la prof de piano des deux. Jasmine. Sauf qu'une femme ne faisait pas carrière, elle se mariait. Puis là-bas, on a la rue Charles Biddle en l'honneur du père.
Du père.
Du père.
Écrit,
le marché Atwater, il a été construit dans les années 30, encore dans le cadre de travaux publics pour faire travailler les chômeurs pendant la crise. C'est les frères Lemieux qui étaient les architectes. C'était construit dans le style Art déco. C'était un marché populaire à l'époque. À la fin de la journée, on pouvait venir remplir une brouette pour presque rien, ce qui, on s'entend pour dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, je voulais vous me faire un petit spécial de fin de journée dans ma brouette. Je pense pas que ça va marcher aujourd'hui. À l'époque du Mardrapeau, ça a failli devenir un édifice à bureaux. Ça a finalement été préservé. C'est vraiment un symbole dans le coin. Et pour moi, le fait qu'il y ait le marché Atwater ici rend complètement ridicule et scandaleux ce gros bloc de logements luxueux à côté qui, par le volume, l'enterre complètement. Puis je peux pas croire qu'il y ait des urbanistes qui ont laissé faire ça. Donc, juste ici, à la passerelle piéton-vélo derrière le marché Atwater, et de chaque côté, si vous regardez bien, vous voyez des petits murets en pierre. Et des murets comme ça, on en a aussi vu au pont Charlevoix, au pont des Seigneurs. Ici aussi, il y avait un pont tournant auparavant. Il a été remplacé dans les années 50 par le tunnel Atwater qui passe juste un petit peu plus loin par là-bas. D'ici. Et puis si on regarde là-bas, on voit l'ancien édifice de la Dominion Textile. C'est une compagnie textile qui a été fondée sous le nom de Merchants Manufacturing au 19e siècle et que les gens de Saint-Henri appelaient la marchande. Mais en fait, il y a eu un mouvement de fusion au début du 20e siècle, en 1905. C'est devenu une partie de la compagnie Dominion Textile. Un événement marquant de cet édifice-là, c'est qu'en 1946, la Dominion Textile a connu une très grande grève. Parmi les organisateurs, on trouvait Madeleine Parent et Kent Rowley, son compagnon. Et à cause d'une technicalité quant à la reconnaissance du syndicat de la succursale de Valleyfield, Duplessis en a profité pour les faire arrêter et les accuser de conspiration séditieuse. C'est un procès qui a duré de nombreuses années. Ils ont finalement été acquittés. Alors, ça nous a donné le goût d'en savoir plus long au sujet de Madeleine Parent et on a confié ce mandat-là à Evelyne Couturier.
J'ai enfin retrouvé la tasse que mes parents m'avaient rapportée des États-Unis et que j'avais perdue. Celle avec l'inscription « Well-behaved women seldom make history ». Les femmes bien élevées font rarement l'histoire. Et même mal élevées, c'est difficile. Françoise David, députée de Québec solidaire d'Angoin.
Les cours d'histoire, jusqu'à présent, ont très souvent négligé la place des femmes. Très souvent. Oui, bien sûr, Jeanne-Mance, Marguerite Bourgeois, là, qui étaient des femmes remarquables, mais enfin, il y a aussi le 20e siècle quand même. J'ose espérer que les jeunes vont apprendre qui étaient Idola Saint-Jean, Thérèse Casgrain, Léa Robac, Madeleine Parent. Parce que comment est-ce qu'un héritage peut perdurer si on n'a même pas la connaissance du fait qu'il y a eu comme ça des gens extraordinaires? Tu sais, je pense que si sur la rue, je demandais à 10 personnes qui est Madeleine Parent, il y en a 10 sur 10 qui ne sauraient pas.
Justement, Madeleine Parent. Pour comprendre son importance, il faut remonter aux années 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le canal de la Chine est alors un des poumons économiques du Canada, avec des usines partout. Ces manufactures, maintenant condos de luxe, employaient des milliers d'ouvriers, mais aussi beaucoup d'ouvrières, surtout pendant la guerre. Leurs conditions de travail étaient très difficiles. De longues heures, un travail exigeant, un faible salaire, un environnement malsain. Madeleine Parent, élevée dans une famille de classe moyenne et éduquée dans les meilleures écoles de la région, est sensible aux inégalités sociales et économiques après avoir vu les différences de traitement des religieuses entre les pensionnaires et les servantes du couvent où elle a fait ses études secondaires. Elle s'initiera ensuite à la militance à l'université pendant ses études en sociologie à McGill. Par exemple, elle tentera de mettre en place un système de bourses d'études pour les enfants d'ouvriers et de cultivateurs. Elle a un talent pour parler aux foules et en profite pour passer ses messages politiques.
Madeleine Parent était une radicale. Mais Madeleine, elle faisait ça avec une petite voix douce. Il fallait vraiment lui mettre un micro parce qu'elle n'avait pas une voix forte. On se disait parfois entre nous, avec beaucoup d'amitié pour elle, qu'elle parlait un petit peu comme une sœur. Mais la salle était suspendue à ses lèvres. Pendant tout le temps qu'elle parlait, il y avait un niveau d'attention sans que j'ai pas vu souvent. Et à la fin, c'était toujours l'ovation debout. Parce que c'était tout à fait impressionnant, ce contraste entre le radicalisme des propos très assumés et où elle ne se contentait pas de grandes déclarations, elle donnait des exemples, puis elle parlait des luttes et des combats qu'il fallait faire, etc. Mais le contraste entre les propos et le ton était ahurissant. Parfois pour des gens, par exemple, dans le milieu syndical, tu sais, habitués à entendre des grands tribuns. mais elle suscitait un respect et une admiration sans borne, et entre autres la mienne.
Ce sera en 1942, à l'âge de 24 ans, qu'elle commence à mettre à profit ce talent à l'Organisation des ouvriers et ouvrières de la Dominion Textile, une compagnie importante de textiles qui a des usines dans Hochelaga, Valleyfield et Saint-Henri, donc sur le bord du canal. Les personnes qui travaillent dans ces usines sont souvent des femmes peu scolarisées, peu au courant de leurs droits et de leur capacité à se mobiliser et à revendiquer de meilleures conditions de travail. Madeleine Parent travaille donc à les organiser. La Dominion Textile, appuyée par le gouvernement Duplessis, refuse de reconnaître la légitimité du syndicat. Une grève est alors déclenchée en 1946. À Valleyfield, celle-ci est particulièrement dure, culminant lorsque 250 policiers armés de mitraillettes confrontent les grévistes. Mais fait exceptionnel, pendant cette période tendue sur le plan des relations de travail, ce sont les grévistes qui gagnent et arrivent à repousser les policiers. Après 100 jours de grève, une convention collective est enfin signée. L'année suivante, c'est à La Chute qu'on retrouvera Madeleine Parent, encore une fois dans une usine de textile, mais de la Dominion Ayers. La grève durera 5 mois. Cette fois, Maurice Duplessis ne prend pas de chance et Madeleine Parent se fera arrêter avec son collègue Azélus Bocage sur des accusations de conspiration séditieuse. Ils seraient des communistes. Elle n'ira jamais en prison et seront finalement acquittés en 1954.
L'organisation syndicale comme telle était un acte de sédition contre cette gracieuse famille des Ayers qui, semblait-il, était née pour diriger la ville de La Chute. Et alors, on a essayé de faire de l'organisation syndicale une sédition.
Madeleine Parent, dans le documentaire « On est au coton » de Denis Arcand.
Révolte, rébellion, sédition, communisme, anarchisme, enfin tout, on essayait de produire devant le public tous les démons populaires pour essayer de dire que c'était ça, l'organisation des travailleurs à La Chute. Et à la fin, j'ai été condamnée à 2 ans de prison. Subséquemment, la cour d'appel a cassé le jugement et a ordonné un nouveau procès. Seulement, Duplessis a décidé de faire remettre d'année en année un nouveau procès pendant 7 ans. Et finalement, en 1954, nous avons été déclarés non coupables par le juge et ça finit l'affaire. Mais le public ne l'a à peu près jamais su parce que le procès lui-même avait fait la manchette des journaux pendant des semaines et des semaines en 1947 et 1948.
Entre-temps, le syndicat nord-américain dans lequel elle milite l'expulsera, prétendant qu'elle est communiste. Elle quitte alors le Québec pour organiser un syndicat du textile canadien. Elle revient dans la belle province en 1978 et prend sa retraite en 1983. Mais retraite, c'est vite dit. Si Madeleine Parent était syndicaliste et le restera toute sa vie, elle était également une ardente féministe. C'est à travers ce mouvement que Françoise David l'a rencontrée. Son influence a changé le portrait du mouvement féministe du Québec. Après avoir travaillé pendant des années avec les ouvrières des manufactures à travers le Canada, Madeleine Parent a tissé des liens avec les femmes anglophones, allophones et autochtones. Elle apporte cette sensibilité avec elle à la Fédération des femmes du Québec, où ces groupes sont alors sous-représentés.
Madeleine travaillait avec des groupes de femmes du reste du Canada et s'était fait des alliés. Elle avait des admiratrices incroyables jusqu'à temps que Madeleine garde une certaine santé. Elle donnait encore des conférences à quelques heures d'avion de Montréal. Elle était invitée partout dans le mouvement syndical canadien, dans les groupes de femmes. Donc, c'était une sorte de rassembleuse. Elle faisait, elle jetait des ponts, finalement, entre les nations qui coexistent au Canada.
Tout cela, vous ne le saviez peut-être pas. Est-ce à dire qu'elle n'a laissé aucun héritage?
Par toutes ces femmes et ces hommes qu'elle a côtoyés, qui continuent de se battre, qui élève des enfants en disant, vous savez, même des enfants chanceux, là, en leur disant parfois, bien, vous êtes chanceux, vous, mais il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, c'est ça, quelque part, l'héritage. C'est la transmission de génération en génération d'un certain nombre de valeurs, de justice, de solidarité, de respect de la nature, etc. Je pense que l'héritage de Madeleine, c'est ça. j'aimerais ça parfois que les grands mouvements sociaux s'en inspirent davantage quelque part.
Et il y a Françoise David qui continue d'en parler. Il y a moi qui en fais un topo. Il y aura peut-être un futur pont dans le coin de Bois-en-Noix. Et puis il y a vous qui, la prochaine fois que vous marcherez sur le bord du canal à Chine, lèverez votre regard vers les usines transformées en condos et aurez une petite pensée pour cette femme qui parlait doucement et travaillait à changer les choses radicalement.
Alors, c'est ici que se termine notre promenade et cette émission qui tournait autour du mot « canal ».
Merci à toi, Christiane Campagnard, qui a été notre guide pour cette promenade autour du canal. Et merci à Évelyne Couturier, notre collaboratrice dans le champ lexical. Est une émission de Mathieu Charlebois, Christiane Campagnard, Sarah Champagne et Joannie Larue.
Et revenez-nous la semaine prochaine alors qu'on tournera pour une dernière fois autour d'un mot. Et on a choisi, regardez comme c'est dadon, le mot « fin ». D'ici là, c'est fin. Hein? D'ici là, restez sur les ondes de CIBL et revenez-nous la semaine prochaine. Si vous voulez d'autres émissions de Dans le champ lexical, c'est au www.danschamplexical.com. On est sur Facebook, on est sur Twitter. Bye bye, bonne semaine.